Bonjour à toutes et tous, bonjour les explorateurs, les mini-explorateurs, les collégiens, eux, ils sont déjà descendus. Alors, on va afficher une diapositive et je vais vous demander, alors les mini-explos, les explos, vous me dites à quoi ça vous fait penser toutes ces images. Il y en a certaines qui vont peut-être plus parler à ceux qui sont un peu plus grands. Hein. Vas-y Gabriel, ça te fait penser à quoi ? Adriana, aux Indiens, ouais, à toi encore, aux cow-boys, aux policiers aussi, ouais, ça... Magnum, ouais, ça se passe où tout ça, tout ce qu'on voit, hein, où ça, dans le désert, ouais, dans le désert. Et donc, ça se passe en Amérique. Alors, il n'y a pas trop de forêt. Hein. C'est dans l'Ouest américain. On appelle ça le Far West. OK, le Far West. Et on a dit, on parle de qui, là, en ce moment ? Thomas, il nous a rappelé, on parle de qui à l'église depuis quelques dimanches ? Un personnage biblique ? Ah oui, ça, c'est sûr. On parle de Dieu tous les dimanches. Mais dans la Bible, il y a une histoire d'un David. Yes, bravo Gabriel. Alors c'est quoi le rapport entre le Far West et David ? Un peu bizarre quand même, non ? Eh bien, je vais vous poser une question. Quand on dit David, quel est l'autre mot auquel on pense tout de suite ? David, Goliath. Et aussi David, le roi. Et on veut souvent aussi les psaumes. C'est souvent les trois mots hein, qu'on associe avec David. Goliath, le roi et les psaumes. Alors en fait, quand David a tué Goliath, le géant, il avait, alors on ne sait pas exactement, hein, mais il avait moins de 20 ans, ça c'est sûr. On ne sait pas, est-ce qu'il avait 14, 15, 20, une vingtaine d'années. Et le moment où il est devenu roi, c'est-à-dire pas le moment où il a reçu de l'huile sur la tête, mais le moment où il est vraiment devenu roi, il avait 30 ans, ça c'est sûr. On nous dit qu'il avait 30 ans. Et donc entre 17, 18 et 30 ans, David, il a vécu. Et sa vie, c'était un peu comme le Far West. Il y avait un roi, le roi Saül, qui voulait tuer David. Il y avait le peuple d'Israël qui était en guerre contre un autre peuple juste voisin, qui étaient les Philistins. Il y avait dans toute cette région d'autres peuples qui venaient faire des attaques. Comme on avait les diligences qui étaient attaquées dans le Far West, hop, ils venaient, ils volaient tout et ils repartaient. Et dans toute cette période-là, David, il était une sorte de soldat, il avait créé autour de lui comme un groupe d'amis, ils étaient 600 quand même, hein, donc c'est un grand groupe d'amis, 600 hommes avec des enfants, avec aussi leurs femmes, et ils se déplaçaient. Ils essayaient de survivre, ils essayaient d'échapper à Saül qui les pourchassait, ils essayaient d'éviter les Philistins, ils essayaient de gagner un peu d'argent, de survivre. Et ça a duré quelques années. Et au bout d'un moment, David, il en a eu assez. Il a dit, non mais, on ne peut pas continuer comme ça. Il a pris une décision radicale. Il est allé voir le chef des ennemis, le roi des Philistins, en disant, écoute, est-ce que ce serait possible que je me réfugie chez toi avec tous mes amis, là ? On est 1500. Je t'aide de temps en temps. Et en contrepartie, ben, protège-nous. Et ça a marché. Le roi des Philistins, qui s'appelle Achish, il a donné une ville à David et à tous ses amis, la ville de Tsiklag. Et c'est maintenant qu'arrive l'histoire qu'on va lire, sur laquelle on va s'arrêter ce matin. Alors c'est une histoire qui est racontée dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la première partie, dans le livre de Samuel au chapitre 30. Mais je vais résumer le début de l'histoire, et puis ensuite la fin, il y a quatre versets qu'on va lire ensemble, ok ? David, avec ses 600 hommes, le chef des Philistins les convoque en disant « Je vais avoir besoin de vous, les gars, pour mener une guerre. » Donc, et rendez-vous, il dit « Rendez-vous dans telle ville, là, il y avait à peu près 90 kilomètres. » Donc David et ses hommes, ils marchent 3 jours, 30 kilomètres par jour, à peu près. Et une fois arrivés là-bas, il y a une petite embrouille avec les Philistins et le roi leur dit « Bon, bah, finalement, vous pouvez rentrer chez vous. » Donc, chemin du retour, 3 jours à marcher. Donc, ils sont partis combien de temps ? 3 jours, plus 3 jours, plus 1 jour peut-être sur place ? 7 jours. Donc, pendant 7 jours, ils étaient partis de leur ville, de Tsiklag. Et quand ils arrivent de nouveau, eh ben là, c'est la catastrophe. La ville, a été détruite. Il n'y a plus que des ruines fumantes. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus les animaux, il n'y a plus rien. En fait, pendant qu'ils étaient partis, il y a des brigands amalécites, alors ça c'est un des peuples qui habitent, qui sont venus et ils ont tout pris. Ils ont pris les enfants et les femmes pour en faire des esclaves et ils sont partis. Vous imaginez la réaction des 600 hommes? Ils étaient dévastés, ils ont pleuré, ils étaient même en colère. Ils étaient en colère contre David en disant « c'est à cause de toi, hein. On est parti une semaine, on aurait dû rester là ». David, lui, il se tourne vers Dieu, il demande à Dieu « qu'est-ce que je dois faire ?» Il cherche de l'aide. Et Dieu lui dit « va, poursuis ces amalécites et tu verras, vous allez tout rattraper, vous allez tout récupérer ». Hop, tout le monde se lève, on y va, les 600 hommes là, allez, Dieu nous donne de la force, du courage, on y va, on continue. Donc vous imaginez, ils ont déjà marché 3 jours, une journée de repos, 3 jours de marche, et là, ils continuent à marcher pour aller sauver leurs femmes, leurs enfants. Après à peu près 20 kilomètres, hein, où ils ont beaucoup marché, ils arrivent à une rivière, la rivière Bessor. Et là, sur les 600 hommes, il y en a 200 qui vont voir David et qui disent « Écoute David, on ne peut plus là, on est trop fatigué. Ça fait tellement de jours qu'on marche, on a des ampoules, on est fatigué, on n'arrive plus, on peut pas, on aimerait rester là. » David leur dit « Ok, restez là. » Et donc s'ils étaient 600, il y en a 200 qui s'arrêtent, combien est-ce qu'il y en a qui repartent? 599? Non, il y en a 200. Il y en a 400 qui repartent. Alors je vous passe les détails, mais de manière miraculeuse, ils arrivent à retrouver le camp des Amalécites. Les Amalécites sont en train de faire une fête, et David et ses hommes les attaquent. Et ils gagnent. Ils ont deux journées de bataille, et ils réussissent à gagner. Et tous les enfants, toutes les femmes sont saines et sauves. Et en plus, ils ont pris le butin que les Amalécites avaient pris encore dans d'autres villes, donc ils ont plein de chèvres, plein de moutons. Et ça, c'était vraiment un butin extraordinaire à l'époque. On peut se dire, waouh, ça c'est une super histoire, hein. Tout est bien qui se finit bien. Mais en fait, l'histoire, elle ne se termine pas là. Et la partie la plus importante de cette histoire, elle arrive seulement maintenant, et on va la lire ensemble. Alors j'avais juste quelques photos pour illustrer, ça c'était la ville de Tsiklag qui est en train d'être fouillée, donc vous voyez, il ne reste plus rien. Et ça, c'est la fameuse rivière où se sont arrêtés les 200 hommes. Et bien justement, sur le chemin du retour, on va lire 1 Samuel chapitre 30, les versets 21 à 24. David arriva auprès des 200 hommes qui, trop fatigués pour le suivre, avaient été laissés au Bessor. Ils sortirent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils allaient. Tous les hommes mauvais, les hommes sans morale parmi ceux qui étaient allés avec David dirent « Hé, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, rien ne leur sera donné du butin que nous avons repris, sinon à chacun sa femme et son fils, qu'ils les emmènent et qu'ils s'en aillent. » Mais David dit « N'agissez pas ainsi, mes frères, avec ce que le Seigneur nous a donné, car il nous a gardés et il nous a livré la troupe qui était venue contre nous. » Qui donc vous écouterait dans cette affaire? La part de celui qui est descendu au combat et la part de celui qui est resté près du matériel doit être la même. Ensemble, ils partageront. Ça vous est déjà arrivé de devoir partager quelque chose entre plusieurs? Et bien là, il y a eu la bataille avec les Amalécites, et là maintenant c'est un peu la bataille entre deux manières de partager le butin. Il y a le premier groupe qui dit que ils se sont arrêtés, ils étaient trop fatigués, ils se sont arrêtés à la rivière. Aucune chèvre, aucun mouton pour eux. Ils peuvent juste récupérer leurs femmes et leurs enfants. C'est tout. C'est déjà bien, hein. En tout cas, ils ne repartent pas avec quelque chose en plus. Et d'un autre côté, il y a David qui dit « Mais non. On va couper le butin en 600 parts et pas en 400. Ils ont droit à la même chose que les autres. » Qu'est-ce que vous auriez voté pour quel groupe, vous? Parce que la première approche, elle semble logique, non? Les 200 hommes qui se sont arrêtés, ils ont moins marché, ils n'ont pas risqué leur vie dans la bataille, ils ont fait moins d'efforts, ils sont moins méritants. Alors que ceux qui ont marché, qui avaient encore l'énergie, ils se sont battus, c'est eux qui ont sauvé la situation. S'ils n'avaient pas continué, et les femmes et les enfants seraient toujours esclaves. C'est leur courage, leur volonté qui a permis de gagner. Donc, c'est logique qu'ils aient droit à une récompense plus importante, non ? Et ce n'est pas du tout ce que dit David. La logique de David, c'est celle-ci. On le voit à l'écran. Hein. La part de celui qui est descendu, donc la part de celui qui s'est battu, c'est la même que celui qui s'est arrêté. Dit autrement, ce ne sont pas ce que les uns et les autres ont accompli, ce qu'ils ont fait, qui compte, c'est le fait d'avoir participé, d'avoir œuvré ensemble dans le même but. Ce qui compte, c'est d'être membre de ce groupe autour de David. Et pourquoi est-ce que David dit ça ? Pourquoi est-ce qu'il dit « Non, non, on partage tout équitablement ?» Au verset 23, juste avant, il dit « N'agissez pas ainsi avec ceux que le Seigneur nous a donnés. Il nous a gardés, il nous a livré la troupe. » En fait, c'est Dieu qui a donné le butin. C'est comme ça que David voit les choses. C'est Dieu qui a protégé la vie des 400 combattants et c'est Dieu qui a donné la victoire. Tout ce que cette troupe a reçu, c'est ce que nous disait Thomas aussi, tout ce que l'on reçoit, ça vient de Dieu. Et si on suit ce que dit David, en fait, ils n'ont rien mérité, les 400 qui se sont battus. Ils ont reçu de Dieu. Des centaines d'années plus tard, dans une lettre qu'il écrit à l'église de Corinthe, et dans une église où il y avait des chamailleries entre les chrétiens, un homme, l'apôtre Paul, dit exactement la même chose que David. Il s'adresse à ces chrétiens de Corinthe qui sont en mésentente et il leur dit « Qu'as-tu qui ne t'ait été donné ? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Pardon. Voilà. « Qu'as-tu qui ne t'ait été donné ? Puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter ?» Au torrent, à la rivière Bessor, David met en œuvre la générosité selon Dieu. C'est une générosité qui ne fait pas de calcul, une générosité qui ne va pas mesurer les performances des uns ou des autres, c'est une générosité qui est abondante pour toutes et tous. Et pour parler de cette générosité selon Dieu, on utilise souvent un mot que, quand on est enfant, ce n'est pas toujours facile à comprendre ce que ça veut dire. C'est la grâce qu'on a chanté avant, hein, grâce infinie. La grâce, quand vous lirez ce mot-là, quand vous en entendrez, vous repenserez à cet épisode du torrent du Bessor. La grâce, c'est ça. C'est donner sans calcul. On trouve dans la Bible une autre histoire de générosité qui est contre-intuitive, c'est-à-dire qui va à l'encontre de nos calculs humains. C'est une histoire que raconte Jésus et qui parle d'un patron qui embauche des travailleurs. Alors moi, mon premier travailleur que j'embauche, c'est Jésim. Viens voir là, Jésim. Toi, tu as commencé à travailler à 8h du matin. Et tu vas travailler jusqu'à 18h, d'accord ?
D'accord.
Mais c'est un travail dur, hein ? Ok. Ensuite, je vais embaucher Adriana. Adriana, toi, tu commences à travailler 5h après lui. Donc toi, tu vas travailler combien ? 5h ? Ouais, c'est ça, 5h. Tu te mets là, voilà. Voilà, tu commences à travailler, tu seras moins fatigué, hein, ça c'est bien. Et puis je vais aussi, Gabriel, viens voir Gabriel. Toi, il est 5h de l'après-midi, toi tu vas travailler 1h. Tiens, mets-toi là. Toi tu travailles 1h, d'accord ? Ok. Ah, je vous ai pas dit, le salaire que moi je verse c'est 10€ par heure, à peu près le SMIG. Hein. Donc, 10€, ça y est, c'est la fin de la journée, il est 18h. Tu as travaillé 10h, combien est-ce que je te dois ? 100. Donc toi, tu as travaillé combien ? 5 heures, normalement, ça je te dois 50 ? Ouais, non, mais je te donne 100. Je te donne 100. Toi, tu as travaillé 1 heure, et c'est 10€ par heure, normalement, donc je te donne combien ? 10 ? Non, 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 je vais te donner 100 aussi. C'est quand même bizarre, cette histoire. Hein ? Et dans cette histoire, Jésus raconte que ceux qui ont travaillé 10 heures, ils étaient comment, à votre avis ? Ils étaient un peu... Voilà, ils étaient fatigués, mais surtout, ils étaient pas contents. Et ils sont allés voir le patron en disant, « Non, mais c'est quoi cette histoire ? Moi, j'ai travaillé 10 heures. Lui, Gabriel, là, il arrive comme une fleur, il travaille 1 heure, il a autant d'argent que moi. » Et dans cette histoire, Jésus dit, Voilà, voilà la réponse du patron à Edjezim qui râle. Si ça me fait plaisir de donner autant au dernier arrivé qu'à toi, ça me regarde. Est-ce que je ne peux pas disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon? Hein? N'est-ce pas? Merci, vous pouvez garder vos... Alors cette histoire que raconte Jésus, elle a beaucoup de points communs avec l'histoire de David au torrent du Bessor. Et quand Jésus raconte cette histoire d'ouvrier, il dit « Je vous raconte cette histoire pour que vous arriviez mieux à comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. » En fait, ce que dit Jésus, c'est que cette générosité dont David a fait preuve et dont il parle avec cette histoire, cette parabole des travailleurs, c'est une règle, un principe pour le royaume de Dieu. Alors le royaume de Dieu, ça veut dire que ce sera pour dans très longtemps, quand Jésus va revenir, peut-être qu'on sera mort, mais qu'on va ressusciter, qu'on sera avec Jésus pour toujours. Non, le royaume de Dieu, c'est déjà maintenant. Le royaume de Dieu, il est déjà là. Le royaume de Dieu, il a été inauguré quand Jésus est arrivé. Le royaume de Dieu, c'est là, partout où Jésus est reconnu comme le vrai roi, dans la vie des disciples de Jésus, et aussi dans les communautés qu'on forme, qu'on appelle les églises. Ça, c'est déjà le royaume de Dieu. Alors, la question qui se pose à nous, c'est comment on peut vivre cette générosité divine dans l'Église, en tant que chrétien. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, cet épisode de David au torrent du Bessor? Moi, j'en retire deux enseignements, deux choses. La première, c'est que dans l'Église, ce qui compte, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on fait pour Dieu, c'est pas nos compétences. Ce qui compte, c'est d'être disciple de Jésus, c'est d'être membre de la famille de Dieu, de participer à sa vie, à la vie de cette famille de Dieu au mieux de nos capacités. Tout ce qu'on reçoit, c'est un don de Dieu, tout est grâce. Et la seconde chose qui découle de la première, c'est que dans l'Église, il n'y a pas de place pour se comparer les uns aux autres. Parce que tout ce qu'on reçoit, c'est un don. Il n'y a pas de place pour des rivalités. Il n'y a pas de place pour la jalousie, ni pour la fausse culpabilité. Peut-être que ce matin, toi, tu te reconnais parmi ces 200 qui sont fatigués, qui ont besoin de repos. Tu as marché, tu as fait de ton mieux, mais là, ça ne va plus. Tu as besoin de te poser. Eh bien, ma sœur, mon frère, repose-toi. Sans sentiment de culpabilité. Sans regarder à ceux qui continuent peut-être à avancer, sans être jaloux d'eux. Et sans non plus développer un sentiment d'infériorité. La part de celui qui est descendu au combat et la part de celui qui est resté près du matériel doit être la même. Peut-être que tu te reconnais dans les 400, ceux qui ont de l'énergie à revendre, qui avancent, qui vont au combat. T'as plein d'idées, de volonté de remporter des batailles, des victoires pour le Seigneur. Eh bien, ma sœur, mon frère, vas-y, fonce. Mais ne sois pas dans le jugement envers ceux qui ont besoin de se poser. Ne développe aucun sentiment de supériorité. Parce qu'un jour, toi aussi, tu auras besoin de repos. La part de celui qui est descendu au combat et la part de celui qui est resté près du matériel doit être la même. Alors on voit assez bien comment appliquer ça dans l'Église, mais on passe à peu près, je pense, 2% de notre temps, de 5% dans, avec nos frères et sœurs, et 95% de notre temps, on le passe ailleurs, dans les lieux de vie où on se trouve. Et dans notre société, cette question de la générosité selon Dieu, c'est pas tout à fait ça. Hein. Mais pendant la semaine, on reste église. On est église rassemblée ce matin, ou à d'autres moments pendant la semaine, dans les groupes de maison par exemple, ou au groupe de jeunes à Troyes, au Flambeau. Mais on est aussi pendant la semaine une église dispersée, dans nos lieux de vie, au travail, à l'école, dans nos clubs de foot, à la maison, avec nos voisins. Et dans ces contextes-là, on est appelé à nous laisser inspirer par cet épisode de la vie de David, de cette générosité divine, pour essayer de la vivre, même lorsque ce n'est pas simple. Et quand on regarde les valeurs de notre société sous cet angle de la générosité, moi je suis quand même assez frappé du discours qui est quand même très présent de « voilà, faut être un gagnant, faut être un winner ». On développe l'esprit de compétition à plein de niveaux différents. Alors, c'est très présent dans le monde du travail. Moi, je travaille à l'université. Alors, on va comparer les chercheurs entre eux, on va comparer les laboratoires, on va comparer les universités. Mais c'est présent aussi dans le monde des études, c'est présent dans le monde du sport, c'est présent dans le monde de la politique, de la géopolitique. On parle de plus en plus de la compétition pour les terres rares, la compétition pour l'eau, pour l'énergie. Malheureusement, parfois, ça peut s'observer aussi dans les familles, la mise en compétition dans les fratries. Et peut-être que selon les cultures, peut-être que selon votre arrière-plan, c'est plus ou moins fort. Peut-être que vous vous dites « Ah non, moi, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit », mais j'ai quand même globalement l'impression qu'il y a un mouvement de fond qui peut avoir une influence sur notre regard sur nous-mêmes, notre regard sur les autres. Et dans le même temps, cette société qui valorise beaucoup les gagnants, les performances, dans le même temps, on a aussi dans notre pays notamment des dispositifs pour protéger ceux qui sont plus fragiles. Par exemple, depuis 1987, en France, il y a une loi qui favorise l'embauche pour les personnes handicapées, ce qu'on appelle les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ceux d'entre vous qui sont salariés, vous savez aussi que quand on est malade, il y a le droit du travail qui protège. On n'a pas le droit parce qu'on a une maladie grave par exemple, que l'employeur nous dise « bon, ben, allez, ciao, je te vire ». C'est pas parfait, bien sûr, mais il y a des protections qui existent. Et donc voilà, on est dans une société avec à la fois des éléments qui vont plutôt vers le sens de la solidarité et d'autres qui valorisent ceux qui avancent, à la rigueur, quels que soient les moyens. Et en tant que chrétien, je pense qu'on est appelé à essayer à chercher à mettre en œuvre dans nos contextes de vie cette générosité divine. Ça peut être par exemple en essayant de chercher ce qui favorise la coopération plutôt que la compétition, en tenant compte de ce principe-là peut-être dans nos discussions. Là, vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres dans les 15 prochains jours plein de flyers pour les élections, n'est-ce pas? Eh bien voilà, lisez-les et faites-vous une opinion aussi sur la base de ce principe-là. Si vous êtes patron, si vous êtes manager, qu'est-ce que ça veut dire de manager une équipe en ayant ce principe-là à l'esprit? Dans vos relations avec vos collègues ou à l'école, ils sont partis, ça y est là, le sketch est fini. Qu'est-ce que ça peut signifier d'être généreux, de faire grâce? Et pour les groupes qui se réuniront les groupes de maison qui se réuniront cette semaine, on pourra encore creuser la question. On arrive à la fin. On a commencé cette prédication dans la chaleur du Far West. On va la finir dans le froid des Alpes italiennes. Ce soir, peut-être que certains seront devant leur télé, il y a la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'hiver à Milan-Cortina. Est-ce que certains ont regardé les épreuves un petit peu? Ok. Moi, pas tellement. J'ai vu passer, par contre, plusieurs photos de podium et le classement. Là encore, on classe les pays, le tableau des médailles. La France, hier, on était quatrième. Voilà. Et hier, par exemple, il y a eu une course en biathlon. Alors, on est très forts, les Français, en biathlon. Donc, hier, c'était ce qu'on appelle la mass start. Donc, il y avait plusieurs dans le biathlon féminin. Et donc, là, c'est le podium de cette course qui a été remporté par une Française. Et la médaille d'argent est aussi une Française. Donc, généralement, quand on regarde les Jeux Olympiques, on voit ça. Les trois meilleurs et surtout la médaille d'or. Et en fait, cette mass start, il y avait 30 femmes qui l'ont faite. 30 femmes qui ont dû faire des sacrifices pour se préparer pour les Jeux Olympiques pendant des années, qui ont participé à la course, qui ont parcouru toute la distance. Alors c'est du biathlon, donc il y avait du tir. Selon le principe de David, le podium, il aurait dû être celui-ci. 30 femmes qui ont participé. C'est d'ailleurs un des principes, hein. Je crois que c'était Coubertin qui disait l'essentiel c'est de participer, c'est pas de gagner, mais en fait quand on regarde les JO, on a plutôt l'impression de l'inverse. En tout cas, que le Seigneur nous guide au quotidien pour aller peut-être à contre-courant de la culture de la performance, à valoriser la culture de la solidarité, du partage. Et ce n'est pas une générosité qui se fonde sur des bons sentiments. Hein. Thomas l'a rappelé, cette générosité qu'on est appelé à vivre, elle se fonde sur le fait que Dieu est généreux avec nous. Dieu a été généreux avec nous. Et il nous appelle à l'être à notre tour. Je vous invite à la prière. Seigneur, toi qui as inspiré la compassion de David à la rivière Bessor, accorde-nous aujourd'hui la grâce, nous t'en prions, d'être généreux dans tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons. Que nous puissions le faire sans calcul, afin qu'on devienne chacune, chacun, une preuve tangible de ton projet d'abondance face à un contexte de manque et de rivalité. Nous te le demandons au nom de Jésus, celui qui multiplie les pains et les poissons. Amen.
Mince, il reste plus de billets. C'est maintenant le temps des annonces. Rassurez-vous, il y en a moins que les dernières semaines. Ça va aller plus vite. Donc comme Jeff l'a rappelé, donc cette semaine, il y a des groupes de maisons qui vont se réunir et qui pourront justement...